France Culture.
La science CQFD, Antoine Beauchamp.
Alors qu'un nouveau foyer de dermatose nodulaire contagieuse vient d'être détecté en France, on fait le point sur cette maladie qui touche les bovins et sur les solutions à notre portée pour l'endiguer. Lundi 22 décembre, le 115e foyer de dermatose nodulaire contagieuse était détecté en Occitanie. Si les foyers recensés en France depuis juin 2025 sont éteints, les débats restent vifs concernant les solutions dont on dispose pour empêcher la propagation de la maladie. Faut-il généraliser la vaccination ou bien pratiquer une vaccination ciblée, accompagnée de zones de restriction et d'un abattage systématique du troupeau lorsqu'un cas a été détecté? On essaie d'y voir clair dans cet épisode aussi qui inquiète les éleveurs et fait courir un risque à l'ensemble d'une filière agricole. Dermatose nodulaire, comment endiguer la contagion ? Bonjour Barbara Dufour.
Bonjour.
Vous êtes vétérinaire, professeur émérite de maladies contagieuses et d'épidémiologie à l'école vétérinaire d'Alfort. Et nous sommes en duplex depuis les locaux d'ICI Occitanie à Toulouse avec vous, Pierre Bessière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vétérinaire et chercheur en virologie à l'école vétérinaire de Toulouse. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez, comme chaque jour, évidemment retrouver tous les liens qui nous ont permis de préparer cette émission sur le site de la Science CQFD, mais aussi sur notre compte Blue Sky, @ScienceCQFD. Alors on va essayer tout au long de cette heure de comprendre la dermatose nodulaire contagieuse du point de vue de la virologie et des sciences vétérinaires, en n'omettant pas bien sûr les points d'achoppement qui conduisent à des débats parfois vifs entre une partie des agriculteurs et le gouvernement. Toutefois, on se concentrera vraiment dans un premier temps sur nos connaissances de cette maladie. Et pour ouvrir notre discussion avec vous, Barbara Dufour et Pierre Bessière, je vous propose d'écouter une archive qui date du 28 mars 1992. Nous étions sur l'île de la Réunion. Le journaliste Alex Cromwell parlait alors sur la chaîne RFO de la dermatose nodulaire contagieuse qui sévissait sur l'île.
Le cheptel bovin réunionnais compte environ 22 000 têtes réparties sur 3 200 élevages. Les premiers cas de dermatose nodulaire contagieuse ont été repérés à la fin de l'année dernière, plus particulièrement dans des élevages du Nord, de Saint-Denis à Saint-Benoît, dans les Hauts-de-l'Est et dans les Plaines. Jusqu'à aujourd'hui, les services vétérinaires de la Direction de l'Agriculture ont constaté que 265 troupeaux étaient touchés. Le virus vient d'Afrique, mais il avait déjà sévi ici il y a une dizaine d'années. Les animaux contaminés présentent des œdèmes et des boutons au niveau des membres. Ils sont généralement fiévreux, ils ne s'alimentent plus, ils maigrissent et parfois meurent. Les vaches produisent moins de lait et peuvent aussi avorter. La contamination se fait par contact épidermique ou par la salive. La situation a nécessité la mise en place d'un plan d'urgence de vaccination qui demande jusqu'à l'aide du régiment du service militaire adapté. 3 ou 4 jours après une vaccination, l'état de l'animal semble empirer avant le retour à la normale. Le transport des bêtes originaires de zones contaminées est interdit sans autorisation. Les moyens mis en œuvre par la DAF devraient permettre d'éradiquer rapidement le fléau.
Voilà, Barbara Dufour, on était en 1992 à La Réunion. La dermatose nodulaire contagieuse n'est pas une maladie nouvelle. Que sait-on de l'histoire de cette maladie? Est-ce qu'on peut faire les grandes étapes de cette pathologie-là?
Alors, c'est une maladie qui a été identifiée pour la première fois en Zambie, en Afrique australe, donc en 1929. Et puis après, elle s'est répandue dans pratiquement toute l'Afrique. Actuellement, elle sévit très fortement en Asie centrale, énormément de cas au Cambodge, en Thaïlande, etc. Elle a été détectée en Libye en 2023, puis en Tunisie, en Algérie en 2024. Donc, vous voyez, elle remonte, elle se rapproche de nous. Et puis, elle est présente de manière forte en Turquie également, donc à l'est de chez nous. Donc, en fait, elle nous entoure un petit peu, cette maladie. Et puis, elle a fait une incursion en Sardaigne au mois de juin dernier. Je crois que c'est le 20 juin dernier qu'on a observé le premier cas en Sardaigne. Un cas a été rapporté en Italie du Nord, juste un seul foyer. Ils se sont bien ébrouillés, nos collègues italiens. Et puis le 29 juin, elle a fait son apparition, malheureusement, dans un troupeau savoyard, dans l'Hexagone, avec 3 animaux qui ont présenté des symptômes de cette maladie.
On va parler bien sûr de l'évolution de cette pathologie en France depuis juin-juillet 2025. Pierre Bessière, la première incursion de cette dermatose nodulaire contagieuse en Europe, c'était en 2014, en Europe. Donc, est-ce qu'on peut rappeler rapidement comment cette crise a été gérée en Grèce, puis aussi dans les Balkans. Quelles ont été les conséquences de cette dermatose-là à cette époque-là?
Ouais, moi j'aimerais bien juste rebondir sur ce que Barbara a dit pour dire à quel point la diffusion géographique de ce virus a été vraiment remarquable, parce que en l'espace quand même de quelques années, finalement on a réussi à avoir quasiment tous les continents qui ont été colonisés, et ce qui montre bien à quel point les virus arrivent un peu à exploiter nos activités humaines, transport et compagnie. Donc pour répondre plus précisément à votre question, effectivement, il y a eu différents foyers de dermatose nodulaire contagieuse en Europe, il y a de ça quelques années, et la gestion, ça dépendait du pays qui était impliqué. Dans certains pays, on a eu une gestion qui était vraiment similaire à celle de la France, avec des abattages totaux au niveau des foyers, et le tout étant couplé à une vaccination autour des foyers avant après de l'étendre plus ou moins à tout le territoire, tandis que dans d'autres, il n'y a pas eu d'abattage total, il y a eu une vaccination qui a été un petit peu plus laborieuse, et en fonction des stratégies qui étaient adoptées par les pays, la crise a été résolue plus ou moins vite. Je pense notamment au cas de l'Albanie, qui a mis quelques années avant de réussir à maîtriser la diffusion de la maladie, au contraire d'autres pays des Balkans, qui, grâce aux mêmes mesures qui sont mises en place en France, ont réussi à endiguer la circulation de la maladie beaucoup, beaucoup plus rapidement et avec un impact économique qui était vraiment moindre.
Barbara Dufour, l'Albanie, c'est un peu l'exemple repoussoir en matière de gestion de la dermatose.
Oui, tout à fait. Je pense qu'on en reparlera quand on parlera de la vaccination tout à l'heure, parce que c'est vraiment l'exemple d'un pays qui a vacciné pendant plusieurs années, mais de manière non systématique, et donc qui n'arrivait pas à s'en sortir. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure.
Parlons de la circulation de cette dermatose nodulaire contagieuse en France. On a dit que c'était arrivé d'abord par la Savoie. Donc, est-ce qu'on peut dire que le virus a tout simplement suivi le chemin des Alpes et a franchi les Alpes et est arrivé en Savoie ?
Je dirais pas ça. Certes, sur le plan moléculaire, et Pierre pourra le dire tout à l'heure, il semble que les souches soient assez proches des souches sardes. Par contre, on n'a pas mis en évidence de lien direct entre l'unique foyer italien et les foyers savoyards. Après, une fois que ça a été en Savoie, on a vu une extension à la Haute-Savoie, puis de manière assez... C'est pareil, on voit, c'est pas une maladie qui explose, c'est une maladie qui a une longue incubation, je reviendrai là-dessus, et donc on voit apparaître les cas au fil du temps, donc au Savoie, Haute-Savoie, avec pas mal de cas au départ, et puis après, au mois d'août, ça fait une incursion dans l'Ain, puis en septembre dans le Jura, dans le Rhône, pardon, en septembre, et puis en octobre dans le Jura. Et puis, malheureusement, en octobre, ça a fait un saut important, puisque c'est arrivé en Occitanie, dans les Pyrénées-Orientales.
Alors là, comment on peut résoudre cette énigme-là du passage de l'Est de la France au Sud-Ouest de la France?
Une chose est sûre, c'est pas une mouche toute seule qui, par ses propres ailes, a volé du Rhône ou du Jura jusque dans le sud de la France, puisque les mouches qui transmettent cette maladie, on y reviendra aussi, ont un rayon d'action de quelques kilomètres, 2 ou 3 kilomètres. Alors après, c'était peut-être des mouches dans des bétails, des mouches avec du sang contaminé sur les pièces buccales. Le plus probable, c'est pas ça. Le plus probable, c'est un animal qui était en incubation et qui est sorti de la zone à l'époque où la zone n'était d'ailleurs peut-être pas constituée. Je n'accuse personne dans ce domaine. Mais en tout cas, au moment où on ne voyait pas que cet animal était infecté et qui a été déplacé dans le sud. Alors, est-ce qu'il a été déplacé dans le sud, dans les Pyrénées-Orientales, ou est-ce qu'il a été déplacé en Espagne avec des estifs très proches? Je rappelle qu'il y a eu des foyers aussi dans le nord, dans le nord de l'Espagne, juste à proximité des Pyrénées-Orientales. Est-ce que c'est arrivé en Espagne et puis que ça a diffusé de l'Espagne à la France? Ça, je ne saurais pas le dire, mais ou est-ce que c'est le contraire? Mais en tout cas, ça a diffusé par des animaux dans cette zone, c'est bien évident.
Pierre Bessière, on parle de diffusion. J'aimerais bien qu'on fasse un peu, si vous le voulez bien, un portrait robot complet de cette dermatose nodulaire contagieuse. On va commencer par la base. Qu'est-ce qui cause cette maladie?
Donc, c'est une maladie virale. Elle est causée par un virus qui appartient à la famille des poxvirus. Donc, tout le monde a entendu parler d'une manière ou d'une autre. Par exemple, c'est ce qui cause la myxomatose chez les lapins, la varicelle chez l'être humain. Là, on parle de plutôt gros virus à ADN. Alors ça, c'est important. Le fait qu'il soit gros n'est pas vraiment important, mais le fait qu'il soit ADN l'est, parce qu'on est sur des virus qui sont plutôt génétiquement stables. Autant, par exemple, les virus de la grippe, si je parle de la grippe saisonnière humaine, ils mutent chaque année, ce qui nécessite de réactualiser les vaccins. Autant, les virus à ADN sont plutôt stables. Donc, il y a quelques mutations, effectivement, qui vont apparaître, et c'est notamment ce qui permet d'aller traquer les variants en faisant ce qu'on appelle du séquençage pour dire, tel virus, il est proche d'un virus de Sardaigne ou de tel autre endroit, ce qui permet un petit peu après de mener une enquête génétique pour savoir d'où viennent les virus. Mais du côté de l'acquisition de vraiment de mutations qui vont avoir des répercussions, que ce soit sur la virulence ou sur la capacité des anticorps ou des vaccins à être efficaces, c'est quelque chose qu'on n'observe pas, ou du moins extrêmement peu.
Barbara Dufour, il faut aussi le dire que c'est une maladie à vecteur. Vous parliez des mouches. Quand on parle de maladie à vecteur, quels sont, là, dans ce cas-là, les vecteurs qui transportent cette maladie-là?
Alors, c'est important de bien distinguer des maladies dites traditionnellement vectorielles, comme par exemple le paludisme chez l'homme, la fièvre catarrhalovine chez les animaux, chez les ruminants également, qui sont, dans ce cas-là, ce sont des vecteurs, soit des moustiques, soit des moucherons, qui vont multiplier l'agent pathogène. Donc, ils vont mettre... Ils vont le récupérer évidemment dans le sang des animaux, le multiplier dans leur hémocèle, enfin dans leur système circulatoire personnel. Et puis le virus va revenir dans les glandes salivaires et une huitaine de jours après environ, on va pouvoir être réinjecté, si je puis dire, à des animaux. Ça, c'est ce qu'on appelle la transmission vectorielle. Ça n'est pas le cas dans cette maladie. Il s'agit d'une transmission strictement mécanique, c'est-à-dire qu'il s'agit de temps. De stomox, qui sont des mouches, des grosses mouches piqueuses en fait, hein, qui vont venir, qui piquent pas de manière aussi élégante que les moustiques, hein, ils font une espèce de lac sanguin avec des pièces buccales un petit peu intrusives. Et puis donc, comme ils font un lac sanguin, ça fait mal, c'est une petite blessure, donc on a tous été piqués par des temps, on a envie évidemment de faire partir l'animal à ce moment-là. Ce que font les vaches, pas avec leurs mains comme nous on pourrait le faire, mais en bougeant, avec leur queue aussi, etc. Et donc, si le stomox ou le temps est dérangé pendant son repas sanguin, il n'a qu'une envie, c'est de terminer son repas sanguin. Et donc, il va le terminer sur le même animal ou sur un animal voisin. Et puis, s'il a terminé son repas sanguin, il a encore les pièces buccales souillées. Il peut aller également être rentré dans un véhicule et porter ce sang contaminé par ce virus pendant quelques heures. Au bout de quelques heures, la quantité de virus dans les pièces buccales est suffisamment faible pour plus être infectant, mais pendant quelques heures, il peut réinfecter un autre animal parce qu'il ne va pas faire une seule piqûre, il va en faire plusieurs. Donc c'est une sorte de seringue volante, ces animaux-là. Et le dernier point que je voudrais dire, c'est que ces mouches, ces stomox et ces tabanidés sont extrêmement nombreux dans les exploitations agricoles. Les animaux sont recouverts, surtout l'été, ils sont recouverts par ces mouches.
Est-ce que ces stomox sont favorisés aussi par le réchauffement climatique? Je disais que habituellement, c'était des vecteurs qui sévissaient sur le bétail de mars à octobre. Aujourd'hui, il fait plus doux. Est-ce qu'ils survivent plus longtemps? Et puis en plus, bien sûr, ils rentrent aussi dans les étables.
Il ne vous a pas échappé qu'au cours de ces derniers jours, il faisait spécialement doux, aux alentours d'une dizaine de degrés, et il est évident que là, les mouches ne meurent pas. Et puis, il est évident aussi qu'un certain nombre d'entre elles arrivent à passer l'hiver au chaud dans les étables avec les animaux. Donc, il y a une baisse de la pression de ces insectes au cours de l'hiver, mais dans nos hivers qui sont devenus très doux en raison des évolutions climatiques, dans ces hivers très doux, une quantité relativement importante d'insectes survivent.
Pierre Bessière, vous souhaitiez également apporter un complément d'information à ces questions-là?
Le complément a déjà été partiellement apporté par Barbara. Je voulais juste dire que dans cette maladie, il y a énormément de choses qui font que sa gestion est un véritable casse-tête. Mais le fait qu'on ait des vecteurs qui jouent un rôle de seringue souillée, c'est quand même vraiment une chance qu'on peut avoir. Parce que si on fait la comparaison avec d'autres maladies, je pense notamment à la fièvre catarrhalovine, où là on a de vrais vecteurs biologiques, un vecteur qui porte le virus dans le cas de la FCO, il va le porter pendant toute la durée de sa vie. Alors que là, les temps et les stomachs, eux, vont porter le virus pendant une durée de temps assez limitée. Et donc ça, c'est vraiment une chance qui permet de limiter la propagation de la maladie. Et l'autre chose, c'est que ces insectes-là sont des insectes qui sont plutôt lourds, donc qui volent plutôt mal par rapport à d'autres insectes et qui notamment ne sont pas transportés par le vent sur de longues distances. Mmh. Alors oui, il y a certaines études qui peuvent montrer que ces insectes peuvent être véhiculés sur pas mal de kilomètres quand il y a des tornades, notamment aux États-Unis. Mais heureusement, les tornades en France, ça existe, mais ça reste extrêmement, extrêmement rare. Et ce qui fait que la diffusion, c'est comme l'a dit Barbara tout à l'heure, c'est avant tout le mouvement d'animaux et pas tellement les déplacements d'insectes, au contraire de ce qu'on peut avoir pour d'autres maladies où, suite à un gros coup de vent, la maladie peut progressivement apparaître à plusieurs dizaines de kilomètres après un premier foyer.
Barbara Dufour, on entendait déjà quelques éléments d'information sur cette question tout à l'heure dans l'archive, mais quels sont les symptômes et les conséquences de cette maladie, la dermatose nodulaire contagieuse?
Alors, je crois qu'il faut bien se le dire, c'est une maladie grave pour les bovins. Ça n'est pas une zoonose, donc c'est important de le rappeler, ça n'est pas une maladie transmissible à l'homme, mais sur les bovins, les zébus aussi, on en a assez peu en France métropolitaine, et les buffles, cette maladie provoque d'abord une fièvre, ensuite fièvre, abattement, donc baisse de lait, amaigrissement, etc. Mais surtout l'apparition de nodules sur l'ensemble du corps. Ces nodules, ils font entre 0,5 cm et 3-4 cm, espèce de petite boule qu'il y a sur le corps, qui, si on les laisse évoluer, vont évoluer sous forme, vont se sulcériser, faire des ulcères, et puis sous forme de croûte. Alors, on ne les laisse pas évoluer, il ne vous a pas échappé qu'on abattait les animaux malades pour éviter cette contagion, parce que le virus dans les croûtes peut survivre plusieurs mois. Ces croûtes, elles tombent, elles contaminent l'environnement et donc elles entretiennent l'agent pathogène dans le milieu. Les animaux, pour finir sur les symptômes, alors j'ai oublié de dire aussi que ces nodules apparaissent non seulement sur la peau, mais aussi dans les muqueuses. Et donc ça peut provoquer des troubles digestifs, des troubles respiratoires. J'ai oublié de parler aussi du larmoiement et de la salivation intense qui sont contagieux.
Donc les bêtes peuvent se contaminer entre elles.
Il a été montré, même si c'est moins efficace que par les insectes, il a été montré que les animaux pouvaient se contaminer entre eux également, directement, sans passer par des insectes piqueurs. Enfin, cette maladie, elle conduit à, d'une part, la mortalité, la mort des bovins dans environ, dans nos pays, 10% des cas, c'est-à-dire qu'il y a un bovin sur 10 qui va en mourir, et les autres... après des souffrances assez importantes, ça va être des non-valeurs économiques. Perte totale de la lactation, amaigrissement considérable, donc perte de viande, etc., troubles de la reproduction, etc.
Alors, c'est une maladie animale de catégorie A. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Barbara Dufour, en quoi ça consiste? Et puis, ça va nous amener, du coup, doucement à la question des mesures sanitaires qu'elle implique.
Alors, c'est une maladie de catégorie A. Ça veut dire que l'Europe, où la circulation des animaux est libre, ça circule entre la France et l'Italie, enfin, pas tout à fait en ce moment, mais entre la France et l'Italie, comme ça circule normalement entre la France et entre la Savoie et la Bretagne, hein, de la même manière. Donc, l'Europe a édicté un certain nombre de règles sanitaires pour éviter la contamination quand un pays est infecté de certaines maladies, pour éviter la contamination d'autres pays. Ces règles ont consisté à catégoriser les maladies selon les plus graves vers les moins graves. Sur les plus graves, les pays européens se sont mis d'accord sur des règles. La catégorie A, c'est la plus forte catégorie. Ça prend en compte donc des maladies extrêmement graves ou des zoonoses embêtantes, voire graves pour l'homme également. Pour ces maladies de la catégorie A, les pays européens se sont mis d'accord pour, premièrement, viser l'éradication si la maladie apparaissait. C'est très important parce que nous n'avons pas le choix de nous dire nous allons vivre avec le virus. Nous avons des règles de commerce international qui font qu'on doit éradiquer cette maladie puisqu'elle n'existait pas chez nous avant le mois de juin dernier. Donc, éradication et plan d'urgence pour le faire dans l'urgence avec une zone de restriction. Et les mesures qui sont mises en place actuellement en France sont les mesures européennes, même si elles ont été raisonnées au plan européen, pas uniquement par des bureaucrates, mais par des scientifiques, en raison des caractéristiques propres à la maladie.
Puisque vous parlez des mesures, Barbara Dufour, on y vient tout de suite.
France Culture, la science CQFD, Antoine Beauchamp.
On poursuit notre discussion du jour consacrée à la dermatose nodulaire contagieuse, cette maladie qui touche les bovins et qui crée une inquiétude conséquente en France chez les éleveurs. Pierre Bessière, on en vient tout de suite à cette question des mesures qui sont prises actuellement. Déjà, j'avais une question un peu naïve, mais puisqu'on parlait des vecteurs, est-ce qu'on peut commencer par s'en prendre aux vecteurs, à ces mouches, à ces temps? Est-ce que c'est une mission impossible ou bien est-ce que c'est des choses qui ont été envisagées?
Dès lors qu'on a un foyer, on a des mesures de désinsectisation qui sont mises en place et ça va de pair avec les autres mesures qui sont mises en place, à savoir la vaccination et l'abattage. Donc la réponse est oui, des insecticides sont diffusés pour justement diminuer la quantité de vecteurs. Dans les zones où on a des animaux infectés.
Barbara Dufour, on est d'accord?
Ouais.
Oui, je vous en prie.
Pour compléter ça, je voudrais dire que on peut s'attaquer à deux choses sur les vecteurs. D'une part, les vecteurs adultes, ceux qui piquent, Et c'est ce qu'a dit Pierre, c'est-à-dire qu'on a effectivement des insecticides qui ne vont pas tuer toutes les mouches ni tous les temps. D'ailleurs, c'est une bonne chose pour la biodiversité, qui vont simplement réduire la pression. D'autant qu'un certain nombre de ces animaux sont maintenant très résistants aux antiparasitaires, aux insecticides qu'on utilise. La chose la plus importante, me semble-t-il, c'est d'éviter le renouvellement de ces populations, et c'est donc de lutter contre les larves. Et les gîtes larvaires en particulier, qui sont constituées souvent par de la litière sale avec des matières organiques. Donc l'importance de la désinfection dans cette maladie est tout à fait considérable, à la fois pour diminuer la pression virale, vraiment, en détruisant le virus qui peut subsister dans des croûtes ou dans l'environnement tel qu'il a été excrété par des bovins à travers la salive, les larmes, etc. Mais surtout aussi pour détruire ces gîtes larvaires et donc diminuer la pression en insectes. On ne va pas la réduire complètement, on n'y arrivera de toute façon pas, mais en diminuant cette pression, on diminue la probabilité que les animaux se transmettent la maladie.
Pierre Bessière, on est d'accord aussi qu'il n'existe pas de traitement contre la dermatose nodulaire contagieuse, donc on va écarter cette question-là, peut-être expliquer les raisons pour lesquelles on n'a pas établi de traitement.
Alors on est d'accord, effectivement, il n'y a aucun traitement qui existe, même si c'est quelque chose que je peux lire, notamment sur les réseaux sociaux, de la part de politiques ou pire encore de chercheurs affiliés à de grandes institutions françaises. La raison, c'est qu'il n'y a pas eu d'études qui ont été menées dans le cadre de cette maladie et chez des bovins. Donc il y a plein de raisons pour expliquer ça, ne serait-ce que le fait que tester une molécule sur des bovins avec une maladie de cette catégorie-là, eh bien, c'est extrêmement laborieux. Il faut faire des essais cliniques en laboratoire et autant avoir des souris, c'est plutôt facile, autant stocker des vaches en laboratoire, en animalerie, c'est très difficile. Et une autre raison est aussi qu'on a un vaccin qui, on aura l'occasion d'y revenir, qui est extrêmement efficace. Et actuellement, dans la mesure où nous sommes dans une optique d'éradication et non pas de soins individuels, quand bien même, j'ai envie de dire, il existerait des traitements, il ne serait pas possible de les utiliser actuellement.
Pierre Bessière, donc expliquez-nous, puisque vous ouvrez la porte des vaccins, je vous laisse la priorité. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce vaccin? De quel type s'agit-il? Et quelle est son efficacité? Comment fonctionne-t-il?
Donc le vaccin qu'on utilise actuellement, c'est un vaccin qui est dit à agent vivant atténué. Autrement dit, le vaccin contient une souche virale qui est dite vaccinale. Donc on a pris la souche qui était responsable de la maladie, et en la cultivant en laboratoire, on a réussi à lui enlever son pouvoir pathogène. Donc on a un virus qui est capable de se répliquer, de se multiplier chez l'animal. Ça peut se traduire parfois par des effets indésirables au point d'inoculation qui peuvent évoquer la maladie. Mais il n'y aura pas de progression grave de la maladie et cette souche est vraiment apathogène. L'intérêt d'utiliser un tel vaccin, c'est que suite à une seule injection, le virus va se multiplier. Ça va donc entraîner une réponse immunitaire qui va être assez précoce et assez forte en comparaison aux autres types de vaccins qui existent, qui sont des vaccins à agents inactivés, où là, au lieu d'injecter un virus vivant, on va venir injecter des petits morceaux de virus mort. Et ça, généralement, c'est moins immunogène. Le système immunitaire n'a pas à combattre une vraie infection. Et donc, avec le vaccin à agents vivants atténués, une seule injection suffit, ce qui est assez pratique lorsqu'on veut lutter rapidement contre une épizoo aussi. Et l'avantage qu'a ce vaccin, c'est qu'on aura une protection clinique qui va être extrêmement forte, c'est-à-dire que les animaux qui vont être infectés après avoir été vaccinés ne tomberont pas malades. Et une protection également contre la réplication du virus. Donc c'est toujours possible d'avoir une réplication virale à bas bruit qu'on pourra détecter par PCR, mais est-ce que pour autant on a affaire à du virus infectieux? Ça, je ne peux pas vous répondre parce qu'il y a peu de données à ce sujet, mais ma conviction est que soit qu'il n'y en a pas, soit qu'on en a extrêmement peu. Et ainsi, en abaissant la charge virale, on évite que un animal infecté puisse en contaminer d'autres. Je vais juste nuancer ce que j'ai dit en disant que, comme c'est le cas pour toute vaccination, quelle que soit l'espèce, il y a toujours des gens, des individus, des animaux qui vont moins bien répondre à la vaccination, ou voire pas du tout. On parle dans ces cas-là de non-répondeurs. et d'où l'intérêt d'avoir une couverture vaccinale la plus large possible. Si jamais on a 100% d'un cheptel qui est vacciné, eh bien ça se traduira pas forcément par 100% de protection. Il y aura toujours une minorité d'animaux qui ne seront pas protégés et qui, eux, pourront développer la maladie.
Barbara Dufour, Pierre Bessière vient de nous expliquer le fonctionnement et l'efficacité de ce vaccin. Si cette efficacité est aussi forte, pourquoi tout le cheptel français n'est-il pas amené à être vacciné, puisque c'est l'un des grands débats qui oppose certains syndicats agricoles et certains agriculteurs au gouvernement et aux décisions qu'il a prises en matière de vaccination concernant ce bétail-là.
Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La vaccination systématique est une stratégie qui a été utilisée dans les Balkans avec efficacité sur un troupeau qui était très inférieur au nôtre. Je voudrais rappeler aux auditeurs que nous avons en France 17 millions de bovins. 17 millions de bovins, pour l'instant nous avons eu, vous l'avez rappelé, 115 foyers. Il a fallu abattre et je ne sous-estime pas l'aspect très très difficile pour les éleveurs concernés hein, de ces élevages. Il a fallu abattre les élevages, les 115 foyers, ce qui correspond environ à 3500 bovins abattus aujourd'hui pour cette maladie.
C'est-à-dire que dès qu'on détecte la présence de la maladie, on tue non seulement les bovins porteurs, mais aussi les bovins présents dans ce troupeau.
Alors, on détecte les bovins malades, on abat les bovins malades. Je voudrais dire aussi qu'on n'abat pas préventivement sur une suspicion. Mmh. On a fait un prélèvement sur les lésions observées. Ce prélèvement, il a fait l'objet d'une analyse PCR en laboratoire qui confirme la présence du virus. Et c'est quand on a cette confirmation qu'on déclare un cas. Et à ce moment-là, on abat les animaux malades. Et malheureusement, le reste du troupeau, pour la raison très simple, il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est la durée de l'incubation. C'est-à-dire que vous avez une incubation, une période donc entre la contamination par le virus et l'expression des signes cliniques, qui peut être d'un mois, qui peut aller jusqu'à même un peu plus d'un mois dans certains
cas. Ce qui est quand même assez long. On parlait tout à l'heure du vaccin. Le vaccin, il est immunogène à partir de 10 jours, ce qui fait qu'une bête vaccinée peut malgré tout contracter
Absolument.
Cette maladie.
Si une bête est vaccinée, elle peut quand même avoir été infectée juste avant sa vaccination ou juste après, et elle va pouvoir quand même, dans ce cas-là, développer la maladie. Donc, on n'est pas capable de repérer, on n'a pas de tests de diagnostic aujourd'hui qui nous permettent de distinguer les animaux infectés des animaux sains. Donc, comme les animaux ont une incubation longue, on ne pourrait pas être sûr de ne pas laisser dans le troupeau des animaux qui vont développer la maladie quelques semaines, jours, semaines après. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y a des animaux qui sont infectés inapparents, qui sont infectés et qui ne présenteront pas de signes cliniques. Environ 50% des bovins qui sont infectés ne présenteront pas de signes cliniques. Pour autant, ça a été bien prouvé, il y a des références bibliographiques très claires là-dessus, sur des expériences qui ont été menées en laboratoire, qui montrent bien que ces animaux sont capables de transmettre la maladie. Donc, pour ces deux raisons, il n'est pas possible de ne pas, si on n'abat pas tous les animaux dans un troupeau qui n'est pas antérieurement vacciné, un troupeau naïf comme nos troupeaux français actuels, on prend de très gros risques d'avoir de nouveaux foyers dans les semaines qui suivent. C'est pour ça qu'on fait un abattage total. Je voudrais encore dire deux choses. La première, on est dans une maladie virale et comme l'a rappelé Pierre, il n'y a pas de traitement. On pourrait imaginer des antiviraux, etc. On sait tous, on l'a vécu à travers la Covid-19, à travers d'autres maladies, on sait tous que c'est une petite aide, les antiviraux. Mais ça n'est pas un traitement. Les antiviraux, c'est pas égal aux antibiotiques. C'est pas ça qui permet de guérir d'une maladie. Et donc, face à une maladie virale, il nous reste le vaccin.
Alors, puisqu'on parlait d'abattage, j'aimerais quand même qu'on entende la voix des agriculteurs, puisque eux sont en première ligne de ces abattages-là au sein de leur propriété. Je vous propose qu'on entende un montage de témoignages d'agriculteurs réalisé par Hélène Trigueros. C'est tout de suite.
On est en train de faire l'abattage de bêtes qui sont en pleine forme, de bêtes qui sont belles, qui produisent, qui ne sont pas testées positives, qui ne sont pas malades, et on les abat.
Puis c'est trop radical, quoi. C'est tuer tout un troupeau pour une vache ou deux qui est malade. Non, c'est pas. Donc, et puis il y a de la tristesse aussi en force. Enfin voilà, comme je vous disais, on est tous attachés à nos bêtes et on fait ça parce qu'on aime nos animaux. Donc voilà.
208 bovins, vaches comme veaux. Une perte que ne supporte pas leur éleveur. C'est sa fille qui a accepté de nous répondre.
Ça me fait mal au cœur pour mon père, forcément. C'est l'histoire de toute une vie, finalement, qui part en fumée, quoi. Se retrouver sans revenus, sans salaire, comment il va vivre, en fait. Voilà. La question, elle est là.
Moi, je suis installé il y a 3 ans. J'ai emprunté 600 000 euros pour moderniser le bâtiment. Il me reste encore 15 ans à rembourser. Demain, si j'ai plus de vaches, comment je fais pour payer mes emprunts, ma salariée?
Ça nous fait déjà mal au ventre, si on peut parler comme ça, de voir partir nos animaux, même quand ils sont malades. Hein? Alors, voir partir des vaches en pleine santé pour être euthanasiées, jetées dans les camions pour aller être brûlées, alors qu'elles pourraient être consommées, ça dépasse l'entendement.
Voilà, Pierre Bessière, quel point de vue vous portez sur ces témoignages-là qui sont qu'on entend beaucoup là en ce moment et qui sont quand même toujours assez marquants, puisque pour un éleveur, perdre son cheptel, c'est comme si on demandait d'une certaine façon à un vigneron d'arracher ses vignes, d'en replanter des nouvelles. C'est aussi un travail au long cours, l'élevage. Voilà, quel regard vous portez là-dessus, vous ?
Bah, c'est difficile pour moi de réaliser à quel point c'est un événement qui peut être traumatisant. Je me dis qu'effectivement, hein, que avoir ces animaux qui sont abattus sur place, parfois après des générations de sélection génétique, c'est la chose la plus catastrophique qui puisse arriver à un éleveur. Malheureusement, si on est vraiment très factuel et qu'on énumère toutes les caractéristiques de cette maladie, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, hein, la durée, la contagiosité, la durée d'incubation, le fait que le virus reste présent dans les lésions pendant des semaines, si ce n'est des mois, mais je ne vois pas comment on peut s'opposer à l'abattage total des animaux, sachant vraiment qu'on est dans une optique d'éradication de la maladie et que nous avons tous les outils qui sont suffisants pour permettre de remporter la bataille contre le virus. Mmh. Avec vraiment ce qu'on fait actuellement, hein, de l'abattage couplé à de la vaccination, avec qui constitue vraiment un cordon sanitaire entre les zones touchées et les zones adjacentes, et sous réserve qu'il n'y a pas de mouvement illicite d'animaux, je serais vraiment très surpris que nous ne remportions pas la bataille contre cette maladie.
Barbara Dufour, cet abattage, c'est un mal pour un bien, c'est absolument nécessaire selon vous?
Oui, c'est absolument nécessaire. Je voudrais d'abord dire que j'ai de la compassion pour les éleveurs qui ont vécu ça. C'est un drame individuel, personnel, terrible sur le plan psychologique. Sur le plan économique, ils sont bien indemnisés et ils vont pouvoir repartir. Mais il faut recommencer, relancer la génétique. C'est compliqué, c'est lourd et c'est psychologiquement extrêmement difficile à vivre. Cela dit, ils font quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que ces gens-là, en fait, ils sont solidaires de leurs camarades. On abat leur troupeau, pas pour eux. On abat leur troupeau pour protéger les autres, ceux qui sont autour. On ne déplace pas les animaux pour aller à l'abattoir, pour éviter de déplacer les mouches, pour éviter de contaminer sur le chemin de l'abattoir les troupeaux qui se trouvent autour. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on fait un abattage total dans les troupeaux. Et donc, je dis bravo aux éleveurs qui l'ont accepté, même si ça a été très douloureux pour eux. Et je pense que la profession agricole devrait les remercier pour ça.
Tout à l'heure, on évoquait, Barbara Dufour, la vaccination généralisée, qui n'était pas forcément souhaitable, même d'un point de vue vétérinaire et sanitaire. Expliquons pourquoi et à partir de quel taux de vaccination on pourrait envisager une éradication totale de cette maladie.
Alors, pourquoi en France ça n'est pas souhaitable dans la situation épidémiologique actuelle? Si on avait des foyers partout en France, imaginons qu'on ait 1500 foyers répartis dans 50 départements, c'est évident qu'il faudrait faire une vaccination généralisée. Ça n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, il n'y a plus de foyers dans l'Est. Je crois qu'on a gagné la bataille, Pierre le disait tout à l'heure, dans l'Est de la France. Il reste le Sud-Ouest, certes très impacté par la maladie, enfin tout de même, avec une cinquantaine de foyers. Vous imaginez la vaccination de 17 millions de bovins versus ça. C'est une sorte de marteau-pilon pour écraser une mouche, si je puis dire. Donc, ça n'est pas raisonnable dans le contexte actuel. Une fois de plus, ça ne remet pas du tout en cause les politiques qui ont été employées par nos amis grecs qui avaient des foyers dans tout le pays, par exemple, ou dans d'autres pays, où il y avait des foyers répartis sur tout le territoire, où le nombre de bovins était très inférieur, et où c'était plus cohérent de vacciner tous ces animaux. Je voudrais dire aussi deux choses. On produit des animaux en France, évidemment, pour la consommation directe, mais aussi pour l'export, pour la vente dans d'autres pays. La vaccination généralisée protège les troupeaux, mais masque aussi l'apparition des symptômes. Et donc, on ne pourrait pas être sûr de ne pas vendre à nos camarades des autres pays européens des animaux apparemment sains, qui seraient en fait infectés et qui pourraient éventuellement développer une maladie parce qu'on l'a dit, tous les animaux d'un troupeau, même s'ils sont tous vaccinés, ne vont pas s'immuniser de la même manière. Et donc, ça conduit à des restrictions de circulation des animaux. Si on vaccinait aujourd'hui toute la France, on aurait des problèmes de vente des broutards. On en vend quand même 1 400 000 chaque année en Espagne et en Italie.
Pour Donc là, vendre... c'est la dimension économique.
Ça, c'est la dimension économique, mais elle est importante.
Elle est très importante.
Les éleveurs produisent aussi.
Ils vivent de ça.
Ouais. Ils vivent de ça, pour l'économie.
Pierre Bessière, vous souhaitiez aussi réagir à ce propos.
Oui, je voulais juste rebondir sur la situation qu'on a en Corse, parce que je me dis que les auditeurs qui sont bien au courant de ce qu'on fait pourraient se dire « Mais oui, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on s'est mis à vacciner en Corse alors qu'il n'y a pas de foyer de DNC ?» Et je voulais juste dire que la vaccination se fait un petit peu aussi au cas par cas. C'est ce qu'on a vu là dans les pays des Balkans. Et en Corse, on a pris la décision d'aller vacciner les ruminants, en se disant que la Corse est très proche de la Sardaigne, donc on a un risque d'introduction du virus qui est beaucoup plus fort que ce qu'on pourrait avoir dans le nord de la France. Compte tenu de la particularité de cette île qui est avec un élevage bovin qui est plutôt disséminé avec certaines vaches qu'on pourrait qualifier presque de sauvages, les autorités ont pris la décision d'anticiper et de vacciner avant qu'on ait un cas de dermatose nodulaire sur cette île, justement pour anticiper et éviter de se retrouver dans une situation qui serait incontrôlable si la maladie était introduite.
Restez avec nous parce que justement, on va se demander dans quelques instants ce qui fait la spécificité de cette dermatose nodulaire contagieuse par rapport à d'autres maladies animales. Et on va se poser la question aussi de nos modes de production, de ces viandes et aussi de circulation de ce bétail. Ce sera juste après ça. Par Björk dans la science CQFD sur France Culture. On poursuit notre émission consacrée à la dermatose nodulaire contagieuse en compagnie de Barbara Dufour, vétérinaire, professeure émérite de maladies contagieuses et d'épidémiologie à l'école vétérinaire d'Alfort, en compagnie également de Pierre Bessière, vétérinaire et chercheur en virologie à l'école vétérinaire de Toulouse. Alors on évoquait tout à l'heure le fait que la dermatose nodulaire contagieuse n'est pas une maladie animale comme les autres, mais c'est aussi une maladie à comparer aux autres pathologies. Le bétail d'élevage est touché depuis longtemps par certaines pathologies. Pour voir comment les mesures prises pour endiguer certaines de ces maladies évoluent, je vous propose d'écouter une archive de l'émission Limousin Actualité diffusée le 5 février 1966. Il était alors question de la fièvre aphteuse.
La fièvre aphteuse, une maladie qui inquiète à juste titre. La fièvre aphteuse se caractérise souvent par l'apparition de baves et également par une température élevée. Rappelons que l'origine de cette épidémie provient de l'importation de porcs de Hollande.
Vous, personnellement, docteur, vous avez vu, sur le plan local, dans le sud du département, certains cas de fièvre aphteuse. Quel est alors votre travail ?
Eh bien, je suis vétérinaire sanitaire, et lorsque je découvre un cas de fièvre aphteuse, je le signale immédiatement à la direction des services vétérinaires, qui fait appliquer toutes les mesures sanitaires et mesures médicales, propres à arrêter l'épizootie qui peut se déclarer. Ces mesures, vous les connaissez, on en a parlé dans les journaux, il y a eu des communiqués. C'est essentiellement l'abattage des animaux atteints et des animaux contaminés, la création d'une zone de séquestration sur le foyer même de l'épizootie, la création d'une zone de 2 km autour du foyer qu'on appelle zone d'interdiction, dans laquelle ne doivent pénétrer aucun animal. Et une zone de surveillance est créée dans un rayon de 10 km. Et dans cette zone, la circulation du bétail est soumise à un règlement assez draconien. La bête malade est abattue parce qu'elle peut constituer, elle peut guérir, mais elle constituera par la suite vraisemblablement un foyer. Un foyer à l'intérieur de son organisme, un réservoir de virus. Et même malgré une guérison clinique apparente, elle peut héberger pendant de longs mois ce virus. Et à l'occasion de l'introduction d'animaux neufs dans la ferme, d'animaux non vaccinés ou de naissance de jeunes animaux, la maladie peut éclater et de là se propager aux fermes environnantes. La mesure d'abattage qu'on applique peut paraître très sévère, mais elle se justifie.
Barbara Dufour, finalement, quand on entend cette voix de 1966 concernant une autre maladie, la fièvre aphteuse, on se dit que les stratégies sont globalement toujours à peu près les mêmes. Comment vous entendez-vous cette archive-là ?
Bah, je la trouve très intéressante et c'est vrai que la fièvre aphteuse est également une grande menace pour l'élevage français. Elle est d'ailleurs classée catégorie A par l'Union européenne et elle conduit aux mêmes mesures. C'est aussi un virus, hein, c'est une maladie qui transmet par voie aérienne, par voie respiratoire, et donc c'est normal de faire cette zone autour des foyers. Et c'est la maladie la plus contagieuse qu'on connaisse. Donc franchement, quand on voit ce qui s'est passé en Grande-Bretagne en 2001, où nos amis britanniques ont eu jusqu'à 2000 foyers, ils ont été obligés d'abattre pas loin de 4 millions de bovins. C'était une catastrophe à la fois économique, à la fois sur le plan... Enfin, les campagnes ont été dévastées par ça. Donc, il faut éviter ce genre c'est pour ça qu'il faut intervenir très vite sur ces épisodes-ci. Bon, 115 foyers, c'est pas rien. Mais c'est pas des milliers de foyers. À l'époque où, avant, dans les années 66, la vaccination a commencé, enfin, elle s'est mise en place dans les années 62 contre la fièvre aphteuse. Mais avant cette vaccination généralisée, il y avait des milliers, des dizaines de milliers de foyers chaque année. Des éleveurs qui voyaient toute leur production réduite à néant par le passage de la maladie. Donc, on a éradiqué la fièvre aphteuse de France. Et maintenant, évidemment, on est fragile. On espère vivement ne pas la réintroduire sur notre territoire. Et ça pose le problème de la circulation des animaux, hein, en fait.
Pierre Bessière, voilà, cette circulation des animaux, ça pose, en fait, finalement, toutes ces maladies, on parle de fièvre aphteuse, on aurait pu parler, vous le faisiez tout à l'heure, de fièvre catarrhale ovine, on aurait pu parler également de l'encéphalopathie spongiforme bovine, la maladie de la vache folle, de la grippe aviaire. Toutes ces maladies nous amènent à nous poser la question de nos modes d'élevage. Est-ce que dans ce cas précis de la dermatose nodulaire contagieuse, c'est le mode d'élevage qui est en question ? Est-ce qu'il s'agit d'une remise en question de l'élevage industriel, ou bien est-ce que c'est plus compliqué que ça ?
Non, je dirais que c'est plus compliqué que ça. Ce sur quoi je voudrais rebondir juste, c'est la présence ou non de réservoir animal pour une maladie. Un réservoir, c'est une espèce animale ou une maladie, ou enfin un agent pathogène plutôt, va réussir à circuler de manière pérenne en rendant ou non malade l'espèce animale impliquée. Et la grande chance qu'on a pour la dermatose nodulaire contagieuse, c'est l'absence de réservoir. Autrement dit, du moins en France, c'est pas tout à fait le cas en Afrique, les seuls animaux qui sont susceptibles d'être infectés sont des ruminants, et donc en France, des animaux d'élevage. C'était également le cas pour la fièvre aphteuse, mais pour d'autres maladies, c'est pas le cas. On aura peut-être l'occasion d'en revenir, d'en parler tout à l'heure si on parle d'influenza aviaire ou de peste porcine africaine. Et donc, cette maladie, le seul moyen qu'elle a de circuler dans notre pays, c'est via les mouvements d'animaux. Et donc, c'est un peu ce que je disais au début de l'émission, hein, je pense qu'il fait bon d'être un virus au 21e siècle, parce qu'on vit dans un monde qui est extrêmement connecté. Et donc, sans vouloir forcément impliquer l'élevage industriel, ce qui pose problème, c'est cette connexion, les mouvements d'animaux. Et c'est totalement ça qui a réussi à expliquer le fait que la maladie arrive, certes en France, mais aussi que, en l'espace d'une grosse dizaine d'années, allez, une vingtaine d'années, elle arrive à sortir d'Afrique et coloniser toute l'Asie.
Barbara Dufour, on évoquait donc cette circulation des animaux. On n'a pas évoqué aussi une des mesures, c'est les zones réglementées, les zones de protection autour des élevages contaminés. Expliquez-nous comment ça fonctionne et justement les raisons de ces zones-là.
Alors, il y a une zone de 50 km qui est réglementée autour de chacun des foyers. Ces zones, elles sont mises en place pour éviter la sortie du virus vers d'autres zones. Et dans ces zones, on va pratiquer la vaccination. Dans les 20 km, on va la pratiquer de manière centripète. Et puis dans les 30 km autour, on va la pratiquer comme on peut, enfin le plus rapidement possible en tout cas. Et en tout cas, aucun animal n'a en principe, sauf une dérogation particulière, le droit de sortir de cette zone. Pour pouvoir justement empêcher la circulation du virus sur des animaux soit infectés inapparents, dont on a parlé tout à l'heure, soit des animaux qui seraient en incubation. Et donc ces zones, elles sont essentielles, c'est-à-dire que on n'en parle pas suffisamment, mais ça fait vraiment partie d'une des mesures phares de lutte contre la maladie. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire un abattage de tous les animaux, de faire une vaccination, si on ne met pas en place en plus ces zones de restriction.
Alors, on a parlé de cette dimension biologique, vétérinaire, sanitaire de cette dermatose nodulaire contagieuse. On peut pas faire l'économie non plus d'une explication de texte du fait que ça intervient aussi à un moment de grande tension politique où le monde de l'élevage se sent lésé dans le cadre de négociations de l'Union européenne avec les pays du Mercosur et aussi dans le cadre de ces travaux de mise en place de mesures qui ont été très largement coordonné avec la FNSEA qui n'est plus le syndicat agricole majoritaire. Tout ça conduit pour ces dimensions politiques, je vous renvoie à d'autres émissions sur France Culture qui ont traité la question, mais tout ça nous conduit à la place de la parole scientifique, à votre parole en tant que vétérinaire, Barbara Dufour. Certains vétérinaires ont été menacés de mort, ont été insultés, ont été agressés. Voilà, comment vous percevez ça dans ce contexte-là, alors que vous ne faites qu'apporter une expertise à un moment donné, expertise sollicitée par le politique?
Ah, c'est un débat sociétal que vous posez là, vraiment. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte où la parole, probablement politique, est un peu discréditée et ça rebondit sur la parole scientifique, surtout quand la parole politique s'appuie sur des faits scientifiques. Alors, je ne sais pas si c'est comme dans le Covid, on va avoir quelques millions d'épidémiologistes en France, mais ça en prend le chemin. C'est-à-dire qu'on entend vraiment un petit peu tout et n'importe quoi sur la maladie, avec des fake news, avec des choses... Bon, mais ça, c'est le mal de l'époque, c'est-à-dire, je parle de médias dans un média, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu le problème, d'une manière générale, des réseaux sociaux, des médias, qui véhiculent pour certains une information la plus fiable possible, et pour d'autres, une information la plus écoutée possible.
Pierre Bessière, je vous pose exactement la même question. Comment vous percevez cette mise en doute de votre expertise en tant que vétérinaire concernant cette maladie-là?
Bon, déjà, je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et moi, c'est un sujet qui plutôt me met en colère. Je peux comprendre que des personnalités politiques décident de raconter n'importe quoi à ce sujet parce que ce sera par gain électoral. Ce que j'ai beaucoup plus de mal à comprendre, c'est comment des gens qui sont des chercheurs, des médecins, alors peut-être des vétérinaires, même si à ce jour j'ai pas encore entendu de vétérinaires raconter trop n'importe quoi à propos de cette maladie. J'ai du mal à comprendre, oui, comment, enfin, pourquoi ces gens vont être amenés à venir mettre de l'huile sur le feu, venir colporter des choses qui sont totalement fausses, mettant en avant l'ivermectine, mettant en avant la propolis pour traiter la maladie. Je vois pas vraiment quel intérêt ces gens ont à part venir rajouter du chaos au chaos.
Bon, revenons-en à... Voilà, le chaos est en train de passer. On le souhaite, en tout cas, Barbara Dufour. À partir de quand on pourra se dire que l'épisode aussi de dermatose nodulaire contagieuse est éradiqué en France? Est-ce qu'on en prend le chemin? À quel horizon de temps on peut espérer voir cette maladie disparaître?
Moi, j'ai tendance à être optimiste. Et donc, j'ai tendance à dire que le plus dur est passé. C'est pas pour ça qu'on n'aura pas encore quelques foyers. Vous voyez, vous avez annoncé le fait qu'on en avait eu encore un hier. Il est possible d'en avoir encore un certain nombre. Mais la vaccination est lancée sur 1 million d'animaux dans les 10 départements du Sud-Ouest. Moi, je pense que... un mois après la fin de cette vaccination, on y verra déjà beaucoup plus clair. Et si on n'a pas de nouveau foyer, parce que chaque nouveau foyer retarde évidemment l'éradication elle-même. Hein. Mais moi, je suis optimiste et je me dis que d'ici 2 mois, on aura des idées beaucoup plus claires. Et je pense qu'on aura gagné la bataille contre la DNCB, si toutefois on est capable de tenir bon. C'est-à-dire tenir bon, ça veut dire... effectuer cette vaccination dans de bonnes conditions, et c'est très difficile pour les éleveurs, pour les vétérinaires également, Rappelons-nous que ce sont les fêtes et que légitimement les gens ont le droit d'être en vacances en ce moment alors qu'ils sont en train d'attraper les animaux pour les vacciner. Deuxièmement, il faut également que les éleveurs jouent le jeu, c'est-à-dire que s'ils ont des suspicions, qu'ils les déclarent, que les vétérinaires les voient ces animaux, parce que si des gens font circuler des animaux masquent des signes cliniques, ben on est mal parti. Voilà. Donc ça repose quand même sur les éleveurs et sur les vétérinaires.
Pierre Bessière, une autre question se pose, c'est, bon, si on arrive à éradiquer cette dermatose nodulaire contagieuse bovine, on sera évidemment tous très contents, mais ça pose la question, en fait, de la récurrence de ce type de maladie. On parlait d'influenza aviaire, on parle aussi beaucoup en ce moment d'une autre maladie qui se présente aux portes de l'Europe et aux portes de la France, c'est la peste porcine africaine. Ces maladies-là, concrètement, quels moyens on a aujourd'hui d'en limiter la diffusion de façon drastique?
Ce qui nous a permis de répondre de manière aussi réactive contre la dermatose nodulaire contagieuse, ben c'est l'Europe. Il y avait des vaccins qui étaient disponibles, qui avaient été commandés par l'Europe pour être mis à la disposition des États membres ou d'autres pays pour répondre de manière rapide en cas de crise, ce qui permet d'éviter ben tous les délais qui sont inhérents à la commande de vaccins. Donc ça, c'est vraiment une chance qu'on a eue, et cette chance, c'est vraiment grâce à l'Europe qu'on l'a eue. Pour d'autres maladies, ça peut être beaucoup plus compliqué. Là, vous avez évoqué la peste porcine africaine, qui est une maladie qui est vraiment, je pourrais dire, une forme de l'Ebola du cochon en version extrêmement contagieuse. On est sur un virus extrêmement résistant qui tue de manière vraiment exceptionnelle les cochons. Et pour
sangliers.
Cette maladie, malheureusement, nous n'avons pas de vaccin qui est disponible. Donc il y a beaucoup d'études en cours pour... c'est un peu la course au vaccin pour trouver quelque chose de vraiment efficace. Actuellement, c'est pas encore le cas. Et pour ces maladies-là, on est un petit peu démunis. Et ce qui est vraiment important, bah, c'est d'avoir donc tout ce qui est biosécurité, le fait d'avoir des vétérinaires qui certifient que les animaux sont ou non capables d'être transportés, etc. C'est vraiment tout l'appareil législatif qui encadre les mouvements d'animaux.
Excusez-moi.
Oui, pardon, je voulais juste rajouter une chose. Donc, par rapport à l'influenza aviaire, je parlais tout à l'heure d'espèces réservoirs. La grosse difficulté, c'est qu'on a certains virus, donc c'est le cas pour l'influenza aviaire, qui sont portés naturellement par les oiseaux sauvages et qui, eux, on ne peut pas les empêcher de se déplacer. Et ben, au gré des migrations des oiseaux, on peut avoir comme ça des incursions sporadiques du virus sur notre territoire. Et là, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas du tout mépriser.
Merci beaucoup à tous les deux, Barbara Dufour. Malheureusement, on arrive déjà au terme de cette émission. Merci beaucoup d'être venus nous éclairer sur cette dermatose nodulaire, Pierre Bessière et Barbara Dufour. Merci à Wissam El-Kayer d'avoir assuré le duplex depuis les studios d'ICI Occitanie à Toulouse. À présent, il est l'heure, comme chaque jour, de retrouver la chronique Avec Science. On vous retrouve, Alexandra Delbo, avec cette semaine une série de chroniques dédiées à la santé des femmes. On parle aujourd'hui de cardiologie.
Comment la médecine répare-t-elle ses biais? Avec aujourd'hui, comment mieux soigner le cœur des femmes? En France, 200 femmes meurent chaque jour d'une maladie cardiovasculaire. Derrière ces pathologies, on regroupe toutes les maladies du cœur et des vaisseaux, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque ou encore les thromboses. Ces maladies sont la première cause de mortalité chez les femmes, bien devant le cancer du sein par exemple. Et pourtant, dans l'imaginaire collectif, les maladies cardiovasculaires sont des maladies d'hommes. Une idée fausse nourrie par un problème bien identifié que l'on a évoqué hier, la recherche biomédicale s'est longtemps construite sur des corps masculins. Résultat, les formes que prennent ces maladies chez les femmes ont été moins étudiées, moins bien décrites et donc moins reconnues, d'autant que les femmes ne présentent pas toujours les mêmes symptômes que les hommes. Manon Jouffroy est médecin vasculaire au centre hospitalier de Versailles.
On s'est rendu compte qu'il y a peu de connaissances, en tout cas sur les pathologies cardiovasculaires féminines, parce que les études scientifiques conduites pour étudier justement les maladies cardiovasculaires incluaient surtout finalement des hommes. On s'est rendu compte qu'il y avait à peu près moins de 40% de femmes incluses en moyenne, et on observe aussi d'ailleurs que les taux sont encore plus bas dans les études consacrées au syndrome coronarien aigu ou à l'insuffisance cardiaque. Donc en fait, ça a représenté un véritable frein à l'étude des pathologies cardiovasculaires féminines dans son ensemble, puisqu'on a plus de 8 femmes sur 10 à peu près qui ne connaissent pas les signes de l'infarctus féminin. Pour prendre l'exemple de l'infarctus du myocarde chez l'homme, il va se présenter comme une douleur du thorax qui va irradier dans le bras gauche, survenir de manière brutale, qui va appuyer sur le thorax et qui empêche de respirer, donc une douleur qu'on qualifie de constrictive. Alors que chez la femme, on s'est rendu compte que la présentation était beaucoup plus sourde. En fait, elle présente plus souvent des signes digestifs comme des nausées, des vomissements, mais aussi une anxiété généralisée. On peut retrouver également des vertiges et une angoisse croissante, brutale, inexpliquée, qui était finalement encore trop méconnue jusqu'alors et qui va justement entraîner un retard diagnostique et de prise en charge.
Lors d'un infarctus, les femmes sont prises en charge 30 minutes plus tard que les hommes. C'est une perte de chance énorme parce que chaque minute compte. Chaque minute, des cellules cardiaques vont être détruites si elles ne sont pas correctement irriguées. Les femmes meurent donc davantage de maladies cardiovasculaires que les hommes, pourtant numériquement plus nombreux à en être atteints. Autre angle mort encore trop sous-estimé, les facteurs de risque, donc les caractéristiques ou les comportements qui augmentent la probabilité de développer l'une de ces pathologies. Il y a un triptyque commun aux hommes et aux femmes. Le tabac, le diabète et l'hypertension, mais là encore, leur impact est différent selon le sexe. Par exemple, avoir du diabète chez un homme multiplie par 2 le risque de maladie cardiovasculaire et par 3 chez la femme. Pareil pour le tabac. Le risque est 25 fois plus élevé chez la femme que chez l'homme. S'ajoute à cela le stress chronique, les violences conjugales ou encore certaines conditions sociales qui augmentent nettement le risque cardiovasculaire féminin. Et puis, il y a la vie hormonale. On identifie 3 moments charnières de la vie des femmes où elles sont particulièrement exposées à ces maladies, 3 instants qui permettraient d'ailleurs de mener un dépistage très ciblé. Geneviève Plubureau est chef du service de gynécologie médicale à Port-Royal.
Ces 3 périodes sont l'utilisation d'une contraception, donc avec la demande de contraception, la grossesse et la ménopause. En fait, ces 3 périodes sont importantes parce que pour la première période, les femmes vont demander une contraception et les contraceptions, certaines contraceptions, notamment combinées œstroprogestatives, quelle que soit la voie d'administration, sont à risque vasculaire à la fois veineux et artériel. La grossesse, parce que pendant la grossesse, on a des modifications de la coagulation, on est à haut risque veineux. Et puis la ménopause, parce qu'à la ménopause, on a vieilli et on a des facteurs de risque qui sont apparus progressivement. Et donc, si la patiente souhaite un traitement hormonal, par exemple, de ménopause, elle pourra l'utiliser uniquement si elle a des artères en bonne santé.
Dépister les maladies cardiovasculaires chez les femmes ne veut pas dire toutes les envoyer chez un cardiologue, mais coordonner la prise en charge. Beaucoup de femmes renoncent aux soins par manque de temps ou de lisibilité du parcours à suivre. Repérer un risque cardiovasculaire peut commencer chez le médecin traitant ou lors d'une consultation gynécologique. L'autre enjeu crucial pour resserrer les mailles du filet, c'est d'aller vers celles qui sont éloignées du système de soins. C'est tout l'objectif du bus du cœur, porté par l'association Agir pour le cœur des femmes, à laquelle participe justement mes 2 interlocutrices. Finalement, les maladies cardiovasculaires illustrent ce que produisent les biais de la médecine. Quand les symptômes sont moins bien identifiés, les soins arrivent plus tard, voire trop tard. Mieux les connaître et les reconnaître, c'est déjà mieux soigner le cœur des femmes.
Merci beaucoup Alexandra Delbon. On vous retrouve demain pour votre prochaine chronique avec Science. Un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD, Tom Umdenstock, Alexandre Morales, Céline Lozen, Ali Ruyer-Thompson, Noémie Eliazor, Joseph Schlegel, à la réalisation Hélène Trigueros, à la technique aujourd'hui Grégory Wallon. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt dans la Science CQFD et en attendant, gardez le bon cap, il y a toujours une terre de science en vue.